Chapitre 4. Errance. N'ayant pas grand-chose à faire, Thérèse décida qu'elle verrait de Londres tout ce qu'elle pourrait voir sans trop de dépenses. Dans la matinée, elle cousait un peu, elle faisait sa correspondance, elle prenait des notes dans son journal. Aucun autre travail ne lui était obligatoire, ni même accessible, car les idées anglaises de Mistress Stephen ne lui eussent point permis d'accepter un coup de main de sa pensionnaire à la cuisine. L'élaboration du repas devait rester un impénétrable mystère. Même le pain, le lait, la viande arrivaient par des voies secrètes dans des bas-fonds inconnus. Thérèse et la Lyonnaise commentaient en français, avec des rires, l'organisation du ménage anglais, l'intransigeant protocole, la hiérarchie rigide des classes, qui faisait d'une Lizzie servile devant sa maîtresse la supérieure hautaine d'une femme de ménage d'occasion.
« Je suis permanente !» déclarait Lizzie en redressant son long dos voûté, heureuse et fière malgré tout de pouvoir mettre son pied sur la tête d'une créature cramponnée au barreau inférieur de l'échelle.
Avant de sortir, Thérèse faisait soigneusement, minutieusement, le plan de son excursion. Elle dessinait les rues, les quais, les ponts et tous les tournants sur une page de son carnet. Elle ne s'égara plus, ayant soin d'ailleurs d'éviter les quartiers douteux et les ruelles. Bonne marcheuse, elle prenait rarement l'omnibus. Elle se reposait sur un banc dans un square, ou bien elle faisait de longues stations devant les étincelantes devantures des bijoutiers. Elle croisa et apprit par cœur tout le lacis des allées de Hyde Park autour des pelouses où paissent des moutons gris. Elle chercha dans un guide de Londres les jours où s'ouvrent gratuitement les musées et les édifices publics. Elle en profita largement. Si son jeune estomac criait famine vers 5 heures, Thérèse savait maintenant découvrir les restaurants A, B, C, lettre magique qui signifie « Aerated Bread Company », compagnie du pain aéré. Comment et pourquoi aérer? Thérèse se le demanda jusqu'au moment où elle sut que ce mot ne signifiait rien du tout, qu'il avait été choisi uniquement pour faire avec le A et le C une désignation facile à graver dans la mémoire populaire. Une tasse de thé médiocre, une épaisse tartine ou une lourde tranche d'un gâteau au raisin parcimonieux satisfaisaient l'appétit et la soif de Thérèse pour la somme minime de 4 pence. Autour d'elle, tout remuait, se hâtait, dévorait. On causait à peine. Elle descendit dans un bazar souterrain, éblouissant de lumière, de marbre poli, de miroirs. Elle n'acheta rien, mais elle écouta de la musique. Elle s'aventura dans la cité et jusqu'au pont de Londres, à travers la foule serrée et les embarras de voitures. L'embouteillage des véhicules était tel qu'on aurait pu suivre le pont dans toute sa longueur en marchant sur les toits des hansoms et des fiacres immobilisés. Heureuse Thérèse, elle eut une série de jours ensoleillés, 15 jours, 3 semaines, qui furent peut-être la seule charmante période de sa vie à Londres. Il n'est pas de métropole plus variée ni plus intéressante que cette énorme capitale où tous les peuples de la terre ont le rendez-vous. Il n'est pas de coucher de soleil plus somptueux que ceux qui traînent leurs ors et leurs pourpres dans les nacres liquides de la Tamise aux innombrables bateaux. Thérèse fit un pèlerinage de tous les ponts, elle suivit tous les quais de l'une et l'autre rive, depuis Chelsea, où elle salua avec un respect convenable l'ombre de Carlyle, jusqu'à la tour de Londres, où elle s'extasia devant les bijoux de la couronne. Chaque jour, elle devenait plus infatigable, plus affamée de spectacles, de beauté et des aspects mouvants, de l'opulence et du commerce, de cette incomparable agglomération d'humanité. Elle n'eut aucune mésaventure. Personne ne la coudoya, aucun gentleman entreprenant ne lui glissa un mot à l'oreille, tandis qu'elle s'attardait devant les soieries d'Oxford Street et les diamants de Bond Street. Mademoiselle Galimard haussait les épaules et se moquait de son innocence. « Un monsieur vous suivrait pendant 12 heures, que vous ne vous en apercevriez même pas. »« C'est possible, après tout, » pensait Thérèse. « Tandis que moi, poursuivit la petite masseuse, pas très jolie mais gracieuse et piquante, et qui avait du chien, comme elle l'exprimait elle-même, j'entraîne tant que je veux après moi, rien que pour les faire courir. Ne le dites pas à notre vertueuse bourgeoise. »
Le fait est que Thérèse connut une émotion le jour seulement où elle sortit avec Mlle Galimard. C'était un samedi après-midi. Elles étaient remontées à Saint-Paul, jusque sur la plateforme du Dôme, pour contempler à perte de vue, comme sur une carte, le tracé des rues, les taches de verdure, le lavis brun, gris, blanc, des maisons microscopiques, les insectes qui sont des chevaux, les cirons qui sont des hommes, et la vague brume où tout s'estompe jusqu'aux plus lointains horizons. Les deux jeunes filles qui causaient en français avec quelque vivacité se virent tout à coup entourées par un groupe de jeunes gens, des commis de magasin, des calicots, qui les serrèrent en riant, leur offrirent des rafraîchissements, insistèrent pour qu'on fît ensemble une petite fête. Galimard parlait l'anglais parfaitement. « Si vous ne nous laissez pas tranquilles, prononça-t-elle, je vous fais arrêter par le policeman qui est en bas. » « Elles sont anglaises !» murmura l'un des commis, tandis que Thérèse filait comme un rat vers l'entrée de l'escalier et dégringolait quelques centaines de marches sans reprendre haleine. « Que vous êtes sotte !» fit Mlle Galimard en la rejoignant. « Nous serions restés là-haut encore une demi-heure que pas un de ces bons hommes n'aurait bougé. » L'annonce coûteuse, en anglais cette fois, n'avait produit aucun résultat. Thérèse alla s'inscrire en payant à l'avance une guinée dans un bureau de placement bien situé. Et elle y passa tous les jours pendant une quinzaine pour s'entendre répondre « Rien encore pour vous, miss !» La nièce de Mistress Seven, cette Sophie qui traduisait des circulaires en allemand et en français pour des commerçants, mais qui aspirait à faire des traductions littéraires pour des éditeurs, demanda à Thérèse de lui donner quelques leçons gratuites en attendant que la roue de la fortune eût tourné pour elle. Galimard dit à Thérèse « Voyons, le maire, vous n'allez pas faire ça, c'est trop bête à la fin. Le français, c'est votre capital. Alors, si vous le donnez pour rien, qu'est-ce qu'il vous reste ? Faites un arrangement avec la tante, votre petit déjeuner, par exemple, en échange d'une leçon. Je ne sais pas faire ces combines. » murmura Thérèse, qui se sentait en état de grande infériorité vis-à-vis de la science pratique de Galimard, d'ailleurs franche et sans détour. Elle donna deux ou trois leçons par semaine à Sophie et découvrit que l'ignorance linguistique de son élève était un abîme sans fond. Les traductions étaient faites à coups de dictionnaire et le plus souvent au petit bonheur des ressemblances. Ainsi, « taille » était traduit par « taille » qui signifie « que ». Cache, qui est un tonneau, devenait un casque français et réciproquement. Sophie s'aventurait même dans la conversation. Elle disait « Je suis faim, je suis soif » et pour « j'ai tort », elle éjaculait « Je suis tort » ou même « Je suis tordu ». Thérèse, le soir, en faisait des imitations embellies et augmentées pour la délectation de Galimard. À elles deux, elles inventaient des à peu près que Thérèse, le lendemain, inculquait à l'infortunée Sophie. « Comment dit-on « not noisy » ?» interrogeait l'élève. « Noisy, c'est qui fait du bruit, n'est-ce pas ?»« Donc, bruiteux !» répondait Thérèse imperturbable. « Vous traduisez votre circulaire « machine à coudre non bruiteuse ». Si elle ne tirait pas un sou de ses leçons de fantaisie, du moins en tirait-elle quelques divertissements. Ainsi, les jours passaient vite et assez gaiement. Quoiqu'eût prétendu Galimard, Thérèse eut un jour l'impression d'être suivie, peu après être sortie de chez elle. Ce fut une certitude quand elle eut passé à son bureau de placement. On marchait derrière elle, assez près, d'un pas régulier. Sans se retourner, elle traversa la chaussée, on traversa aussi. Elle s'arrêta à une devanture, on s'arrêta. Alors, brusquement, elle fit volte-face et aperçut, souriant de son énigmatique sourire, le faune d'Endell Street. « Vous ! » s'exclama-t-elle, toujours trop pressée. Et la seconde d'après, elle songeait qu'elle aurait dû feindre de ne pas le reconnaître. « Moi-même, mademoiselle, trop heureux de la rencontre. »« Oh, rencontre ! » fit Thérèse. « Il me semble que vous me suivez depuis un bon moment. » « Que diriez-vous si je vous confessais qu'hier, je vous ai accompagné, en vous suivant, jusqu'à Regent's Park ?»« Je dirais qu'il faut que vous n'ayez pas grand-chose à faire. »« Mais, comme vous, je me promène. Vous n'avez pas non plus grand-chose à faire depuis que vous avez quitté Belgravia. »« Comment savez-vous cela » demanda-t-elle brusquement. Disons que je m'intéresse à votre sort. C'est toute une histoire que je vous raconterai si vous voulez bien que je marche à côté de vous plutôt que derrière. Ce sera plus commode pour causer. » Elle le considéra un moment bien en face, cherchant ce qui était difficile, hélas, à analyser, un sentiment obscur mêlé de défiance et d'attrait. Cet inconnu, que pourtant elle eût reconnu partout, lui plaisait-il un peu ou lui déplaisait-il tout à fait ? « Savez-vous mon nom ? » fit-elle, se décidant à brusquer les choses. « Oui, je le connais, c'est un joli nom. »« Comment l'avez-vous appris ?» Tout simplement de M. Sylvain, auquel je me suis présenté comme le fils d'une des anciennes élèves de son cours, du cours de son père plus tôt. Nous avons bavardé, il m'a offert un excellent cigare, il m'a sorti ses archives où j'ai vu les notes de ma mère. Oui, ma parole. Ce cours est tenu comme un ministère d'État. J'ai dérivé du côté des élèves actuels. J'en connaissais quatre, ai-je affirmé, quatre sœurs. Mes meilleures élèves, les demoiselles Naïmol, sans doute. Je n'ai d'ailleurs que ce quatuor-là. Parfaitement, les demoiselles Naïmol de Belgravia. Belgravia ? Pas tout à fait. Il m'a nommé le square, cet aimable idiot. Ça roulait comme sur quatre roulettes bien graissées. J'ai trouvé moyen d'en venir à l'institutrice française de ces jeunes personnes. Sylvain m'a révélé que, depuis 15 jours, il y avait eu un changement. Madame le maire ne convenait pas, Sylvain le déplorait, car vous avez fait à peu près sa conquête. Thérèse haussa les épaules. « Comme c'est flatteur » murmura-t-elle. « N'est-ce pas ? Je lui ai extrait le numéro aussi aisément que le nom du square. Il m'a suffi de dire 25 et il m'a corrigé. Non, non, 18. »« Permettez, » fit Thérèse, « nous en étions à ceci. Je vous demandais si vous connaissiez mon nom. » Il me reste à apprendre le vôtre. » Elle se remit à marcher assez rapidement et elle se disait « C'est à lui maintenant de savoir ce qu'il doit faire. » Sans intention bien arrêtée, elle se dirigeait comme la veille vers le joli Regent Park où l'on est si bien pour causer si l'on s'éloigne des grandes allées que peuplent les bonnes, les bébés et les petites voitures. De nouveau Regent Park, fit le jeune homme en se mettant à son pas. « Je veux bien, mais vous ne me demanderez pas de vous montrer le zoo. Je déteste voir les bêtes en cage. » Thérèse ne répondit pas. « Muette, on boude. Ce qu'il vous faut, c'est ma carte. La voici. »